France Musique.
France Musique. Les grands entretiens. Arnaud Merlin.
Je m'appelle Hugues Dufour. Je suis né le 28 septembre 1943 à Lyon. Et je suis compositeur. Et l'on me dit aussi philosophe.
Saturne, il faut dire un mot de ce titre. Tout cela est lié à Erwin Panofsky, à sa vision des gravures de Dürer.
Voilà.
Et à une certaine conception de la mélancolie, il faut bien le dire. Est-ce que cette mélancolie, vous y voyez quelque chose en lien avec d'autres mélancolies dans l'histoire de la musique? Je pense à la Malinconia chez Beethoven, par exemple, que vous connaissez bien, j'imagine. Est-ce que ce fil de la mélancolie dans l'histoire de la musique vous a tenu dans ce Saturne?
Ça, c'est certain. Il y a deux composantes. La Mélancolia, en gros, pour un esprit plus rationaliste d'aujourd'hui, c'est le maniaco-dépressif. C'est beaucoup plus des choses à l'époque. C'est une façon de penser au passé de l'humanité et de s'interroger sur son avenir. Donc, la mélancolie à l'époque, c'est vraiment le thème philosophique par excellence. C'est le philosophe.
Vous parlez à l'époque de Dürer.
De Dürer. Dans toutes les iconographies, le mélancolique de Dürer a le coude appuyé sur son genou et le menton appuyé sur le bras. Donc, il médite. On ne sait pas s'il médite, s'il est dépressif, s'il pense à tous les malheurs du monde ou s'il pense tout simplement au mal. Mais l'autre aspect du mélancolique, c'est que c'est un spéculatif. Et le spéculatif, en philosophie, c'est celui qui pense à tout ce qui se passe ou qui peut se passer au-delà des conditions de l'espace et du temps. Donc, ça peut être la dimension religieuse, ça peut être un imaginaire qui, bien souvent, était celui des philosophes. Bref, il y a de cela aussi dans la définition du mélancolique. Et puis, la chose la plus importante, c'est l'image même du créateur. Et le créateur, c'est pas une surprise, le créateur, pour la plupart du temps, est un mélancolique. Mais à l'époque de Dürer, le mélancolique est par définition un créateur. Et l'histoire, finalement, n'a pas démenti le diagnostic.
Thank you. cette époque-là, en 1979, vous êtes un certain nombre de compositeurs liés à l'itinéraire et vous faites un stage.
Alors oui, nous avons effectivement fait, obtenu un stage pour nous tous à l'IRCAM et nous avons pu ensuite travailler les uns et les autres avec les spécialistes de l'IRCAM et en gros, ils étaient bien contents parce que ils avaient un diagnostic musical de qualité et nous étions très contents parce que nous étions en train de refaire notre tête. Pas moins. Donc, c'était précieux. Muraille n'a cessé d'y travailler. Griset y a également travaillé, fait une de ses dernières œuvres. Lévinas, un peu moins, car il était plutôt, me semble-t-il, attaché au GRM par lequel il avait été formé et dont il était familier. Et on oublie toujours que Dussapin a fait, j'avais obtenu aussi que Dussapin participe à ce
stage.
Et qu'est-ce qu'il a fait 8 jours, puis il n'a pas supporté. Il a rejeté en bloc tout. Cette approche technologique, effectivement, il est passé au théâtre.
C'est peut-être là qu'il faut évoquer ce que l'on a appelé le manifeste de la musique spectrale, que l'on vous doit, puisque c'est vous qui avez trouvé cette expression. Alors, quand on parle de spectre, on pense immédiatement au spectre sonore, mais vous pensiez davantage au spectre au sens bachelardien.
Oui, c'est-à-dire que le spectre, pour moi, c'était bon. Ça faisait image, bien sûr, mais il suffit pas de faire image. Il faut être convaincant. Donc, il faut trouver une expression qui soit le concept d'une époque. Donc, on a pensé à bien des choses, à des adjectifs.
Je crois que Gérard Griset parlait de musique liminale.
Liminale, oui, mais c'est un adjectif. Ouais. C'est un adjectif, c'est pas un concept.
Ouais.
Et donc, ça n'a pas été retenu pour cette raison. On peut toujours trouver des adjectifs qui soient, oui, des descriptifs, qui soient des épithètes d'un phénomène qu'on a du mal à circonscrire. Mais pour circonscrire le problème, pour l'identifier, il faut trouver un mot qui soit un concept. Le concept et le mot n'est pas de moi, il est de Bachelard qui qualifiait le phénomène principal de cette chimie quantique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout phénomène caractéristique, toute transformation en chimie quantique a une signature. Voilà. Et à lire cette signature, voire à l'entendre, on reconnaît des structures fondamentales de la matière, des processus fondamentaux. Voilà. Ce que j'ai voulu dire, c'est que par ce fait même, la musique qui atteignait une toute autre échelle que la musique traditionnelle, voire la musique électronique, bon, même des studios, la musique atteignait et traitait la milliseconde.
Ce que permettait l'informatique, l'ordinateur.
Car ça a été très très long à faire comprendre que l'informatique n'était pas l'électronique traditionnelle. L'informatique traitait de la milliseconde et elle le traitait uniquement par les nombres. Les nombres, c'est pas les circuits électriques. Donc voilà, c'était ça la révolution absolue. Et donc elle nous donnait une prise sur le phénomène sonore, une prise technologique et conceptuelle sur le phénomène sonore qui n'avait pas de précédent.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Hugues Dufour.
Nous changeons d'échelle, nous atteignons des réalités jamais atteintes, nous comprenons des phénomènes où nous percevons et comprenons des phénomènes qui n'ont jamais été ni perçus et a fortiori compris. Et qu'est-ce qu'on en tire ? On en tire une compréhension des phénomènes qui finalement, à cette échelle infinitésimale, abolissent nos catégories traditionnelles, timbre, hauteur, intensité, tout ce qui fait l'orchestre. Et aboli à ce niveau, qu'est-ce qui reste ? Il reste des transitions imperceptibles, mais enfin compréhensibles et rationnelles, entre le bruit coloré, le bruit à dominante harmonique, la structure harmonique des sons, dont on voit qu'il est absolument fondamental. Et l'orchestre du temps de Griset montait à 30 harmoniques. Plus tard, je l'ai monté à 40 dans Urgaroche, qui a été donné à Bonn, en hommage à Beethoven. J'ai gagné 10 harmoniques. C'est considérable et il m'aura fallu 30 ans de plus.
Du coup, quand vous dites on peut aller jusqu'à aujourd'hui, j'ai poussé jusqu'à 40 harmoniques. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux auditeurs ? Les harmoniques, comment ça marche ?
C'est simple. La conquête de la musique en Occident commençait avec Pythagore qui met en relation la structure des sons avec des rapports arithmétiques qui sont...
Une division de la corde, par exemple.
Voilà. Ce genre de...
Qui vont donner une carte ou une quinte, voilà. Des intervalles précis.
Et donc, on a cessé de... Or, il y a eu de grandes discussions du temps de mes études, et même plus tard, pour savoir si ce genre de spéculation était des spéculations chez les Grecs ou déjà des moyens techniques d'approcher l'accord des instruments. Or, de plus en plus, on pense que les finalités étaient également pratiques. Et donc, il ne s'agissait pas simplement de spéculer sur l'éternité des sons, mais il s'agissait bien de constituer les fondements de la musique effective, de la musique occidentale. Par la suite, ces traités se sont complexifiés, mais ont atteint un niveau de science et de complexité qu'on peut évaluer chez Ptolémée, par exemple, beaucoup plus tard, chez Boès, qui transmettra le tout à l'Occident latin. Et je dirais que la grande mutation occidentale commence avec les Carolingiens, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais on se met à écrire et par là, on se détache de la mémoire. Donc la création est possible. Le XIVe siècle est le siècle des mathématiciens qui fondent la polyphonie. Puis aujourd'hui, eh bien, la structure des sons qui n'a jamais cessé d'être examinée, interprétée, ces sons, on peut les produire par l'électronique. On peut les penser et les calculer avant même qu'ils existent. Par conséquent, on sait, comme l'indiquait Fourier, que c'est une superposition d'ondes dans un certain rapport extrêmement compliqué, que ces ondes se rapprochent de plus en plus, c'est ce qui est très très difficile, c'est d'arriver à faire le calcul, donc... Des ondes extrêmes supérieures qui sont très proches et néanmoins différentes, qui créent des frottements, des bruits, des timbres spécifiques.
Mais là, vous êtes déjà assez loin dans la...
Je suis à 30.
C'est parce que peut-être on peut dire que auparavant c'est plus simple. On a l'octave, on a la quinte,
voilà,
on a la tierce.
Auparavant, au 18e, oui, on a quoi, les 5-6 premiers harmoniques. Ensuite, le 19e fait un bond avec Helmos, mais aussi avec les musiciens. On apprend, on s'appuie sur ses connaissances pour créer, pour faire de la musique. Et donc des enchaînements d'accords qui sont inédits, qui sont subtils, qui sont nouveaux, qui sont dérangeants. Mais nous avons fait la même chose, mais en approchant au fur et à mesure que les extrêmes harmoniques se rapprochaient, nous approchons également une conscience de l'infiniment petit en musique. Or, ces différences sont incroyables. La moindre petite différence peut créer des mutations qualitatives dans un son. Et quand je dis qu'on passe, donc, imaginez 30 harmoniques au sonographe, c'est déjà énorme, mais 40 harmoniques données par l'ordinateur, c'est gigantesque, car j'ai pu faire l'expérience en les écrivant à l'orchestre, qu'on obtient des sons uniquement métalliques. Du pur métal, vous n'obtenez plus un son, vous n'obtenez plus de timbre, vous obtenez une pure impression de métal qui se diffuse dans l'air et qui va et vient.
Vous dites que ce n'est plus un timbre ?
Plus vrai, pas au sens traditionnel du terme, non. La retransposition de ce monde infinitésimal au monde normal de l'orchestre, et, au fond, n'a pas demandé moins d'efforts.
C'est ce que vous faites très vite ensuite avec une pièce qui s'appelle Surgir, qui est une pièce pour orchestre.
Voilà.
Et qui n'a pas été très bien reçue première fois. Mais peut-être aussi parce qu'il y avait un programme beaucoup plus classique au même concert. C'est souvent le cas. On sait que c'était pareil pour Désert de Varèse. Quand on met une pièce plus classique, le public vient peut-être écouter d'autres choses qu'une création.
Oui, il y avait eu un quiproquo de pianiste. Un pianiste, un très grand pianiste, était annoncé, je ne sais plus lequel.
Ivo Pogorelitch.
Pogorelitch, vous pensez. Pogorelitch, annoncé. Et Pogorelitch est défaillant et remplacé. Donc déjà, ça indispose de façon épouvantable le public. Et puis, on lui sert en plus, en première partie, Surgir.
Donc, Surgir, c'est votre pièce.
Ma pièce, une expérience épouvantable. Il faut bien dire d'une violence issue de 68. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, je suis un produit. Moi aussi, de 68. Au fond, implicitement, je n'annonçais pas à la société l'avenir glorieux qu'elle escomptait. Et donc, la déception, si je puis dire, a été mutuelle. La réception a été épouvantable. Je monte sur scène. Pas avec l'orchestre auquel je tiens.
C'était l'Orchestre de Paris, dirigé par Claude Bardon.
Oh, mais Claude a fait une première lecture d'un bout à l'autre uniquement avec les cordes. Et à la fin, bon, c'est la lecture, la capacité de lecture était remarquable. Et à la fin, j'ai eu droit à la battue d'orchestre. Mais combien de compositeurs ont droit ? Et ils ont joué, ils y croyaient. Et on pensait naïvement que ça allait être un succès, car tout avait été conçu. Et d'ailleurs, nous avons le disque. Ils ont accepté, bon, qu'on en fasse un disque. Et la déconvenue a été totale pour l'orchestre, pour le chef, et pour moi, je monte, Et après... Il y a eu un premier mouvement d'applaudissements, très chaleureux, bien, tout allait bien. Et puis, et c'est là qu'on s'interroge, un raz-de-marée venu du fond, mais venu en second.
Un raz-de-marée de huée, il faut le dire des
choses. De huée. mais beaucoup plus que des huées, des injures. Et je vois dans tous les premiers rangs, il faut se souvenir que les messieurs venaient encore en habit et que les dames venaient en décolleté. Et j'ai vu de très beaux colliers de perles. J'ai eu le temps de voir tout ça. Et ces messieurs, mais aussi ces dames des premiers rangs, ont hurlé avec les mains en porte-voix « Salaud ! Salaud !» Bon, Radio France a enregistré le scandale et les huées qui ont duré autant que la pièce, c'est-à-dire entre 25 et 30 minutes d'injures, de huées.
Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes resté sur scène, vous êtes redescendu, vous êtes...
Vous savez... Ça, ce qu'on ne sait pas, c'est que je venais d'être opéré l'année d'avant. Je risquais d'y passer, je ne savais pas du tout. Donc, j'étais finalement très très loin déjà de tout ça. J'ai eu le temps aussi d'observer comme un observateur, plus du tout concerné par les événements. Mais dans ce cas-là, on observe très bien quand on est détaché. Donc, non, j'ai pas eu la possibilité d'avoir des émotions, mais j'ai eu des perceptions très aiguës.
Après surgir, vous cherchez d'autres voies. Est-ce que c'est un travail sur le timbre, sur le temps, sur le timbre-temps différent?
Bon, écoutez, je ne m'ai pas tergiversé. Les autres voies ont été celles d'abord de la survie. Je n'ai pas à m'étendre là-dessus.
Mais vous avez été très malade.
J'ai été opéré, mais ma vie n'était absolument pas garantie, au dire des chirurgiens même. Par conséquent, il m'a fallu 10 ans pour recouvrer mes facultés. Et donc, pendant ces 10 ans, je me suis dit, je n'ai plus les possibilités physiques de faire de la recherche, d'engager de grosses affaires. Donc, je vais tenter de faire les œuvres les plus parfaites possibles en leur genre. Musique de chambre, etc. Effectivement, ce sont des pièces qui circulent, mais pas dans les concerts, qui circulent dans les concours de conservatoire. Mais enfin, il pouvait pas en rester là. Donc, par la suite, j'ai changé peu à peu. J'ai beaucoup cherché. J'ai fait de l'orchestre en réfléchissant à l'orchestre pour lui-même. Voilà, ça a donné les hivers, ça a donné beaucoup de choses. Mais j'ai repris également le piano, cette pièce de piano plutôt écrite pour moi. Ce sont des problèmes d'harmonie et ce sont des problèmes... du rapport de notre clavier à nous, de notre approche, de notre rapport au passé.
C'est avec cet extrait de La ligne gravissant la chute, hommage à Chopin, Duc Dufour, par Kotoko Matsuda, que se referme le 4e épisode des Grands Entretiens Duc Dufour, proposé par Arnaud Merlin et réalisé par Françoise Cordet. Une série disponible en podcast sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.